Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet. Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire du Canada français. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qu'il met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications, afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.
Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre de la série À livre ouvert, portant sur les revues et les livres savants produits au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Je suis Lucie Ott, je suis la directrice du CRCCF et ça me fait très plaisir de vous voir si nombreux à cette rencontre. Aujourd'hui, Rémi Légère, directeur de la revue Francophonie d'Amérique et professeur de sciences politiques à l'Université Simon Fraser, s'entretient avec Monica Heller, professeure émérite à l'Université de Toronto, qui a dirigé le numéro 52 de la revue intitulé « Un Canadien errant, les mobilités et la construction de la francité canadienne ». Comme vous le verrez, ce numéro thématique porte sur les mobilités qui participent à la fois historiquement et de nos jours à la définition de la nation dans l'espace francophone nord-américain. Je cède la parole à Rémi Légère, que je remercie chaudement d'avoir accepté de diriger, d'animer cette rencontre, qui nous présentera plus amplement notre invité et le numéro qu'elle a dirigé. Merci aussi à Monica Heller qui a accepté notre invitation. À vous la parole.
Super. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Et donc, je vais juste dire quelques mots sur Monica Heller. Monica Heller, qui est bien connue dans nos milieux francophones, mais aussi dans les milieux à l'international, à la fois en sociolinguistique, en anthropologie. Donc, je vais essayer de garder ça assez bref. Mais Monica Heller, comme Lucie l'a mentionné, qui est désormais professeure émérite de l'Université de Toronto, Monica Heller, qui est aussi membre de la Société royale du Canada, détient des doctorats honorifiques de l'Université de Berne en Suisse et l'Université de la Haute-Bretagne en France, a été présidente de l'Association américaine d'anthropologie en 2013 et 2015, rédactrice en chef du Journal of Sociolinguistics de 2018 à 2021, comme je le disais, spécialiste en anthropologie linguistique, spécialiste aussi en francophonie canadienne sur la francité en Ontario, mais à l'échelle du pays aussi. Plusieurs livres, articles, chapitres que je ne vais pas citer ici parce que ça nous amènerait jusqu'à la fin de l'heure qu'on a à passer ensemble. Et donc, Monica, si vous me permettez, je vais m'arrêter là. Et donc, bonjour Monica, merci d'être là parmi nous et merci de s'entretenir sur le plus récent numéro de Francophonie d'Amérique, qui finalement, ce numéro-là fait partie d'un projet beaucoup plus large, projet financé par le CRSH, projet avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'étudiants. Donc, pour commencer, je me suis dit que ce serait bien de présenter ce projet, les grandes lignes de ce projet de recherche.
Oui, et merci beaucoup de l'invitation. Et je suis très contente de pouvoir entretenir avec toi, Rémi. Alors, le projet dans ce sens a découlé d'une longue série de projets menés en collaboration avec plusieurs collègues, surtout en Acadie, au Manitoba, mais aussi au Québec. Et c'est un thème qui est revenu souvent dans les années antérieures. C'est le thème de la mobilité, qui est souvent un thème de discussion, de discours et de politique aussi en ce qui concerne ce qu'il convient d'appeler la vitalité et l'épanouissement du milieu minoritaire francophone. Et on s'est intéressé à ça parce qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que même s'il y avait énormément d'efforts pour implanter, enraciner, il y a toujours la mobilité, dans les deux secondes, on parle de mobilité, souvent comme problème, comme exode. On parle d'exode rural, on parle de perte de population. Statistique Canada mesure les transferts de population, en partie en lien avec ces efforts de soutenir les milieux minoritaires. Et en conversation, notamment avec mon collègue Yves Frenette, historien, on s'est rendu compte qu'on se rejoignait entre historien et anthropologue sur ce qui semblait être bizarrement semblable des histoires de mobilité dans le passé et de nos jours, même si dans le discours, c'est toujours présenté comme quelque chose de nouveau. Et donc, avec nos collègues politologues Shelley Pelkoja, Concordia, qui est spécialiste du fil du thème de la mobilité qu'on appelle migration, et avec Patricia Lamar, sociolinguiste à l'Université de Montréal, on a dit, creusons ça, essayons de bâtir un projet qui nous permet de voir dans quelle mesure les mobilités du passé sont reliées aux mobilités actuelles, dans quelle mesure ce sont des aspects de la réalité francophone qu'on pourrait tenir compte en dedans d'un même cadre au lieu de tout le temps séparer, par exemple, mobilité interprovinciale et immigration. Dans quelle mesure on a affaire à des phénomènes qui sont reliés et qui sont de plusieurs points de vue. À notre avis, l'hypothèse, c'était que c'est des phénomènes qui sont un phénomène constitutif de la réalité francophone au Canada et qui mérite plus d'attention comme autre chose que juste un problème à gérer et plutôt comme une réalité, comme j'ai dit, constitutive.
Le titre du numéro, Un Canadien errant, qui est aussi le titre du projet, finalement, financé par le CRSH, ça fait sourire un peu ce titre-là, parce qu'on le sait, c'est une chanson qui date de l'époque des rébellions des patriotes, une chanson qui porte sur l'exil, sur l'exode, mais qui porte aussi sur le mal du pays, finalement. Évidemment, ce titre-là a été choisi pour une raison. Donc, qu'est-ce qu'est le lien entre cette chanson et votre projet? Pourquoi ce titre pour ce projet?
Excellente question. Plusieurs liens. Premièrement, ce point de vue, ce discours sur le mal du pays, sur l'exil, ça fait partie des discours sur la mobilité. Et le plus souvent, en fait, c'est l'élément qu'on voit souvent que c'est un problème. Que l'idéal, le normal, si vous voulez, c'est de rester enraciné. Et la lutte, c'est de pouvoir maintenir cet enracinement. Avec un de nos collaborateurs, un des étudiants au doctorat qui a collaboré avec nous au début du projet, Hubert Noël, qui était à l'Université de Moncton à l'époque, s'était intéressé à l'aspect discursif du discours de la mobilité sous l'angle de la musique. Et il a répertorié énormément de chansons du 19e et 20e siècle portant justement sur la mobilité des chansons canadiennes françaises, d'accord? Et en examinant ce corpus, on s'est rendu compte qu'il y a en fait trois manières dont la mobilité est décrite et ressentie dans ces chansons. Bon, l'exil, malheur, souffrance, aliénation, mais aussi juste comme un fait. Tu sais, on vit comme ça, puis ça fait partie de la vie normale. Et finalement, comme libération. Et que donc, il y a trois types d'émotions par rapport à une réalité qui, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on a tendance à ne parler de la mobilité comme quelque chose de problématique, de quelque chose à gérer, quelque chose qui pose un problème pour l'enracinement. Bon, or, quand on regarde la culture populaire, la musique, la chanson spécifiquement, on voit que c'est très présent dans la culture populaire comme thème et pas tout le temps, des fois, mais pas tout le temps, comme quelque chose qui est source de souffrance ou de problème. L'autre lien, c'est justement le fait que ça date du 19e siècle et c'est justement notre tentative de voir dans quelle mesure les mobilités du 19e, voire avant ça, pouvaient se relier dans une forme de trajectoire une forme de dark narratif peut-être, avec les mobilités jusqu'à nos jours. Alors, on a choisi quelque chose du passé pour pouvoir faire le lien avec l'actualité.
Mm-hmm. Bon, j'aimerais citer un extrait de l'introduction du numéro, si vous me permettez, dans lequel vous identifiez les objectifs du numéro, mais du projet de recherche de façon plus générale. Et vous écrivez, et ici je cite, l'un des objectifs est de proposer un cadre d'analyse qui nous permet de comprendre le sens et les effets des pratiques qui passent d'habitude inaperçues ou bien qui sont considérées comme exceptionnelles ou problématiques. Donc, on comprend là que vous avez une approche d'anthropologue dans le sens que vous visez à découvrir ou même à déterrer des nouvelles informations ou encore des nouvelles perspectives, des choses qui sont passées inaperçues, sur lesquelles vous voulez jeter un éclairage. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de l'approche ou de la méthode ou des méthodologies qui ont été utilisées dans ce projet de recherche et dans les articles qui figurent dans le numéro thématique?
Oui, alors bon, d'une part, on a été inspiré par ce qu'on appelle en sciences sociales « mobility turn », souvent associé à des noms comme John Urey, Mimi Scheller ou Ulrich Beck, d'un certain point de vue. Et là, vraiment, c'était tout bêtement de dire, prenons le concept de mobilité, les pratiques de mobilité comme le centre de la chose. Au lieu de mettre au centre des questions de vitalité, de reproduction, d'épanouissement de populations enracinées, prenons la mobilité. Qu'est-ce qu'on trouve si on essaie d'aborder la francité canadienne par le biais de la mobilité? Qu'est-ce qu'on trouve? Et notre argument, c'est que ce qu'on trouve, c'est que c'est partout. Et souvent, justement, pas thématisé, pas examiné, ça fait partie de beaucoup moins de recherches, de publications sur la francité canadienne que des questions de reproduction, vitalité, ou si ça figure, comme j'ai dit déjà deux ou trois fois, ça figure comme un problème qu'il faut gérer. Or, on trouve dans le passé comme aujourd'hui, des formes de mobilité sans lesquelles, en fait, les populations qui ont pu s'enraciner, ça n'aurait pas été possible. Donc, par exemple, les mobilités saisonnières, qu'on connaît très bien dans le système économique agro-forestier, ça nécessite une mobilité saisonnière pour que certaines personnes puissent rester dans le village. Il a fallu que quelqu'un parte pour que d'autres puissent rester. On peut dire la même chose de ce qu'on appelle l'exode vers la Nouvelle-Angleterre, fin 19e, début 20e. On peut dire exactement la même chose des gens, majoritairement les hommes, qui quittent les provinces de l'Atlantique pour travailler par exemple dans l'industrie pétrolière en Alberta. Donc, les fly-in, fly-out, ce qu'on appelle la mobilité pendulaire, mettons 3 semaines sur le terrain, 2 semaines à la maison. Et donc, finalement, on voit des modes de vie, des formes économiques dans lesquelles les francophones du Canada sont impliqués depuis le départ, depuis la traite, depuis la fourrure, et qui sont vraiment la base économique de la francophonie canadienne en sa contribution à la colonisation, en sa contribution au développement de l'économie canadienne, ça on pourrait en parler davantage plus tard, et qui rendent possible l'enracinement, des fois c'est de d'autres membres de la famille, la femme qui reste à la maison, le gars qui part. Des fois, c'est d'autres réseaux de gens qui s'occupent de l'agriculture pendant que certaines tranches de la population s'occupent du bois. Donc, ça nous a permis vraiment de voir comment toutes ces formes de mobilité qu'on a tendance à traiter aussi séparément, en fragments, font en fait partie d'un portrait très généralisé et en continuité assez, assez frappante du passé vers l'actualité. Est-ce que tu voudrais que je parle un
peu plus? Dans le coffre à outils de la francophonie canadienne, si on peut le présenter comme ça, on a plusieurs concepts. Vous en avez mentionné quelques-uns, vitalité, complétude institutionnelle, le par et pour. Et ce sont des concepts que vous présentez comme des concepts qui cherchent à étudier l'ancrage, l'enracinement, on occupe l'espace, on occupe le terrain, des espaces physiques, des espaces institutionnels. Et l'idée, l'un des objectifs du projet de recherche et du numéro, c'est finalement d'ajouter un nouvel outil au coffre, qui est l'outil de la mobilité. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça?
Oui, je pense que c'est de dire c'est une relation. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, mais on comprend très mal une partie de la relation et on comprend très mal la relation entre les deux, ce que la mobilité rend possible pour l'enracinement et vice-versa. Mais les deux sont en relation et c'est un aspect, à notre avis, de la réalité canadienne-française, franco-canadienne, la francité canadienne, qu'on comprend mal, qu'on aurait avantage à creuser. Ça soulève aussi une question pour nous, à savoir qui, c'est-à-dire, alors là, je cite mon collègue anthropologue à Leuven en Belgique, Noël Salazar, qui dit tout le temps, il faut toujours demander qui peut rester, qui doit rester, qui peut bouger, qui doit bouger. Ça fait partie de la compréhension des différences et des inégalités sociales. Ce n'est pas tout le monde qui peut choisir dans ce sens. Ce n'est pas tout le monde qui a le choix libre. Il y a des conditions historiques, politiques, économiques, sociales qui font que c'est souvent genré et de classe et de race. Et ça nous permet de mieux comprendre aussi la diversité dans la francité canadienne et la manière dont cette diversité est reliée à des inégalités face aux possibilités de bouger ou de s'enraciner selon ce qui paraît être intéressant, utile, fructueux pour les individus, les familles, les collectivités en question. Je voulais dire, est-ce que tu permets que je dise un truc sur en fait, la méthodologie?
Oui,
parce que c'est relié aussi à l'histoire de nos disciplines. L'anthropologie, certainement, je ne parlerai que pour celle-là. La linguistique, la sociolinguistique, c'est pareil. On a hérité d'une approche qui disait on vise une collectivité comme si c'était quelque chose d'homogène, avec des frontières claires. Et ce n'est que plus récemment qu'on a commencé à se dire, ben, peut-être les frontières ne sont pas si claires que ça. Peut-être il y a un processus de construction de frontières qu'on devrait mettre à l'avant et non pas l'homogénéité en dedans des frontières comme telles, qui de toute manière, quand on regarde de proche, n'existe pas. Alors, si on prend ça au sérieux, ça nous oblige aussi à avoir des méthodes qui nous permettent de nous éloigner des méthodes qui visent, par exemple, c'est la vitalité de communauté X, la vitalité de la communauté franco-ténoise, la vitalité de la reproduction de la francophonie de Welland. Et de dire aussi, ben, si on met les mobilités au milieu, ça nous prend des méthodes qui permettent de ne pas nous-mêmes nous limiter à des groupes qui sont finalement construits comme homogènes et stables, mais qui ne le sont pas. Et donc, le défi pour nous, ça a été d'inventer des méthodes qui allaient nous permettre de suivre des trajectoires, de suivre les mobilités dans les histoires de vie des individus, dans les histoires des institutions, y inclut des institutions territoriales, si je peux appeler par exemple une municipalité, je le prends comme ça, d'une région et dans les trajectoires des manières de s'organiser politiquement, économiquement et socialement. Alors ça a été pour nous un énorme défi. Je ne sais pas si on a relevé, mais méthodologiquement, ça nous a paru très important.
Bien, continuons sur cette piste-là pour deux minutes encore, sur l'interdisciplinarité plus spécifiquement. Vous venez de dire que vous avez dû inventer des nouvelles méthodes ou des tentatives d'inventer des nouvelles méthodes, de piger un peu à gauche et à droite pour développer des nouvelles méthodes. Et le projet comprend plusieurs disciplines, hein, l'anthropologie, l'histoire, la science politique, la sociolinguistique. Fait que comment que ça a marché d'amener tout ce beau monde ensemble de diverses perspectives disciplinaires, de s'asseoir, j'imagine, autour d'une table et de dire, bon, comment qu'on fait pour mener un projet en commun? L'interdisciplinarité, à la base, ça devrait être ça, d'amener les disciplines ensemble et de dire, OK, comment est-ce que l'on peut combiner les forces de nos différentes disciplines pour avancer? Pouvez-vous nous parler un peu de la démarche du projet? Comment vous avez fait pour combiner des éléments, des méthodes de différentes disciplines?
Alors, concrètement, on a décidé de choisir des points d'entrée géographiques. Des points d'entrée qui nous paraissaient riches parce qu'il y avait des trajectoires de différentes sortes qui traversaient ces espaces-là. Alors, en termes concrets, on a choisi Rimouski et sa région, Saint-Boniface et d'autres parties du Manitoba francophone, la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique et Montréal et un petit peu Toronto. Ce qui nous a permis de dire, OK, bon, par exemple, je vais prendre le Manitoba. Le Manitoba, il y a des trajectoires de colonisation. Il y a des trajectoires de recrutement, mais en fait, au moins deux vagues. Il y a le recrutement de colons francophones d'Europe et du Québec, surtout, au Manitoba, fin 19e siècle. Il y a une vague actuelle de recrutement de ce qu'on appelle immigrés. Alors, on a l'historien qui comprend le recrutement, l'histoire et qui a les outils du travail dans les archives, par exemple, pour mieux comprendre qu'est-ce qui a fait que ces francophones-là sont arrivés de où, à quel moment, pour aller où. Est-ce que c'était vraiment une mobilité de point A à point B ou est-ce qu'il y a eu des mobilités plus complexes à l'époque? Ensuite, qu'est-ce qui est devenu de leur famille et des endroits, est-ce qu'ils sont restés? Est-ce qu'ils sont partis ailleurs? Est-ce qu'ils ont été remplacés par d'autres personnes? Est-ce que dans leur descendance, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ce qui nous a permis de relier l'anthropologie, donc la vie actuelle de ces générations sur une période de 120 ans à peu près. Aussi les mobilités beaucoup plus complexes que qu'est-ce qu'on raconte d'habitude entre l'Europe, le Québec et l'Ouest, y inclut des mobilités qui continuaient, plus vers l'Ouest ou vers le Sud, vers les États-Unis. Ensuite, pour comprendre les liens entre le recrutement actuel et passé, on a le politologue qui est très impliqué justement dans les politiques actuelles de recrutement d'immigrés francophones dans les milieux minoritaires. C'est une initiative associative où le milieu associatif travaille avec le milieu politique, le milieu gouvernemental. Alors, le politologue, c'est son expertise là. Et notamment en ce qui concerne l'éducation postsecondaire, qui est une manière de recruter des francophones de l'extérieur du Canada. Et donc, à Saint-Boniface, on a l'Université de Saint-Boniface qui est une cible, qui est un acteur, qui est aussi l'employeur de M. Frenette. Donc, ça aide aussi. Et on a, pour ce qui est du côté de la sociolinguistique, la question à savoir qu'est-ce qui se passe avec les pratiques langagières dans le passé et actuellement, à différents moments des trajectoires de mobilité des différents individus. Alors, nous avons fini par choisir des exemples illuminants, si on peut le dire comme ça, ayant compris, ayant identifié certains flux migratoires, on a creusé certaines individus et certaines familles, un peu plus pour vraiment comprendre les conditions historiques, les conditions matérielles et le côté subjectif. Qu'est-ce qui fait que on mène cette vie-là? C'est quoi le sens de cette mobilité-là pour ces gens-là? Qu'est-ce qui a été le sens de tentatives de construction d'institutions? Ou qu'est-ce qui est le sens de ceux qui ont été recrutés mais qui sont disparus, qu'on ne voit jamais? Quelle est l'histoire qu'eux, ils racontent sur les opportunités, les obstacles d'intégration dans les réseaux et les institutions de la francophonie? Alors, ça donne un exemple, mais il y en a d'autres. Je pense que peut-être l'Okanagan est intéressant pour d'autres raisons, parce que ça nous permet vraiment de voir dans quelle mesure les missionnaires francophones catholiques ont joué un rôle dans pour rendre accessible, en éliminant les Autochtones de ces terres. Ils ont rendu, pour la Saskatchewan, on a eu aussi, et le Manitoba, on a eu aussi des exemples comme ça. Donc, il fallait enlever les Autochtones de ces terres-là pour que ça devienne des terres colonisables par les francophones, qui ont été recrutés donc dans le cadre d'actions institutionnelles et gouvernementales. Des fois avec des traces, des fois pas, mais qui sert aussi d'une sorte de, bon, je pourrais dire, peut-être de soupape. C'est un exemple où on voit des gens qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu s'enraciner. C'est dans le... qui n'ont pas eu le choix, qui n'ont pas pu rester, qui ont dû partir dans un profil, et ça, c'est une région où ils vont, et ça nous permet de comprendre pourquoi là, qu'est-ce qui fait que ça devient un endroit où on peut aller quand on n'a pas d'autre endroit pour aller et qu'on ne peut pas retourner, avec un autre profil qui est de plus en plus actuel. C'est des formes de, peut-être qu'on peut, je prends le terme de Célia Forgette à l'Université de Laval, de style de vie nomade, où l'idée, c'est justement de relier loisirs, aventure et travail, en refusant, en choisissant ce que les gens eux-mêmes appellent souvent une citoyenneté mondiale, une citoyenneté globale, dans un refus justement des formes de citoyenneté qui ont été bâties au fur et à mesure dans les 150-200 dernières années, qui sont institutionnalisées, mais au sein desquelles plusieurs francophones ne se sentent pas à l'aise pour X nombre de raisons et qui cherchent, avec d'autres, souvent ce sont des jeunes, mais pas toujours, c'est souvent aussi des gens à la retraite, qui cherchent une liberté dans un discours qui est finalement très, très nord-américain, mais aussi très actuel dans les conditions néolibérales, mondialisées d'aujourd'hui. Bon, ce que le COVID va faire, ça c'est une autre histoire.
Ouais, il va falloir un nouveau projet, le Canadien errant après la COVID, dans l'après-COVID. J'aimerais qu'on discute deux minutes de la mobilité plus spécifiquement. Une chose que permet de documenter les quatre articles du numéro thématique, c'est le fait que la mobilité est très rarement linéaire. Très rarement, il y a le point A, le point de départ, et le point B, le point d'arrivée. Et ça, c'est le cas dans l'article sur l'Okanagan notamment, mais votre article avec Gabriel sur les Franco-Manitobains qui vont à Montréal, qui reviennent au Manitoba, qui retournent à Montréal. Et dans les autres articles aussi, il y a cette idée que c'est jamais linéaire, c'est des allers-retours, il y a des arrêts, parfois des arrêts qui sont brefs, qui sont saisonniers, parfois c'est des arrêts qui durent des années, mais on retourne à la maison et là, il y a un nouveau départ. d'un point de vue peut-être un peu plus analytique, qu'est-ce que ça permet de nous dire, qu'est-ce que ça nous dit sur la francophonie canadienne, ça? Qu'est-ce que l'on peut retirer de ce constat que la mobilité est très rarement linéaire?
Je voudrais juste rajouter un profil. Pour certaines personnes, il n'y a pas de maison, d'accord? La mobilité continue, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Donc, le rapport à un espace que les gens considéraient comme leur point d'ancrage principal, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Et c'est pour ça qu'on a préféré utiliser le concept de point d'ancrage, parce que ça peut être multiple aussi. Et on voulait quand même souligner ça. Le fait que ce ne soit pas linéaire, pour moi, bon, ce qui est ressorti pour moi, je pense que mes collègues peut-être ont identifié d'autres termes, c'est que on doit être très conscient de l'importance de la catégorie, appelons cette catégorie, je ne sais pas, français-canadien, canadien-francophone, franco-canadien, whatever. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec ces appellations parce que justement, ça fige d'une manière que je n'ai pas envie de figer et ça suppose qu'une certaine idée de la nation est naturelle, ce qui n'est pas mon point de vue. Mais que cette catégorie-là est une catégorie sociale imbriquée dans un système économique et politique très spécifique qui est l'histoire de l'espace qu'on appelle le Canada dans l'histoire mondiale de l'impérialisme et du colonialisme en lien avec l'État-nation. Et que ces mobilités, finalement, ont quasiment toujours à leur racine des questions économiques. Comment est-ce qu'on mange? Comment est-ce qu'on s'héberge? Comment est-ce qu'on gagne sa vie? Et cette catégorie-là, à mon avis, ça c'est mon analyse, a été développée suite à la conquête britannique pour pouvoir mobiliser justement certaines personnes comme travailleurs dans l'économie de l'extraction, qui a été l'économie de base de la colonie canadienne. En étiquetant cette catégorie d'une manière ethno-linguistique, culturelle, ça permettait en même temps d'effacer ce qui se passait vraiment, ce qui était une forme de construction d'inégalité économique. Quand on dit que les francophones sont le fun, là, mais ils n'ont pas la tête aux affaires, c'est culturel, c'est pas de leur faute, ça rend légitime leur exploitation dans une certaine hiérarchie de position dans une économie foncièrement coloniale d'extraction de matières primaires. On a une transformation de ça, super, à mon avis, super intéressante, dans la mesure où cette culturalisation de la catégorie, ce que moi j'appelle une catégorie d'ethnoclasse, a en même temps rendu disponible la culture comme bien commercialisable. C'est le cas depuis les années 90, je dirais, que la culture francophone est une manière de gagner sa vie. C'est la matière d'exportation aussi. C'est une matière d'importation de touristes, de consommateurs. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de cette culturalisation. Mais il faut expliquer comment ça se fait qu'une culture qui était stigmatisée et utilisée comme excuse pour mobiliser des travailleurs est devenue maintenant quelque chose avec une valeur d'échange. Mais ça c'était un projet antérieur, d'ailleurs.
Oui, j'allais justement dire, on voit là des liens entre le nouveau projet sur la mobilité et vos travaux des 10 ou 15 dernières années sur la nouvelle économie mondialisée, puis aussi sur la francophonie comme bien sur ce marché mondialisé. Peut-être je peux vous poser une dernière question, puis ensuite, Lucie, on peut ouvrir la salle s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour Monica. Ma dernière question, c'est à savoir si vous avez atteint votre objectif, notamment l'objectif de penser la francophonie autrement, parce que c'est comme ça que vous présentez le projet sur la mobilité, c'est comme ça que vous présentez le nouveau numéro aussi. L'un des objectifs, c'est de comprendre finalement autrement la francophonie canadienne. Pensez-vous que vous avez réussi? Jusqu'à quel point avez-vous réussi à satisfaire à cet objectif-là?
Bon, pour moi, les projets sont toujours des étapes, hein? Et depuis le début de ma carrière, j'ai toujours un peu suivi mon nez pour voir où ça menait. Et donc, justement, les projets antérieurs ont mené à ce projet qui va terminer officiellement en mars de cette année-ci. Et dans la mesure où, si j'étais pour écrire une autre demande de subvention, ce qui n'est pas le cas, je sais exactement qu'est-ce que je ferais. Donc, je t'ai parlé tantôt de la question des relations entre l'enracinement et la mobilité. Je pense qu'il y a énormément de choses à creuser là. Ce sera fait, j'espère, par quelqu'un d'autre, pas par moi. Donc, ça a ouvert des pistes qu'on n'avait pas vues tellement clairement au début du projet. Ça m'a permis de voir les choses. Bon, je dirais que ça a confirmé certaines hypothèses. Vraiment, au début, par exemple, Yves et moi, on s'est dit, ce serait intéressant si ça se ressemblait dans le passé, puis maintenant, hein? OK, tu sais, on s'est vraiment convaincu que oui, tu sais, c'est, on n'a plus besoin de se poser la question. Bon, après, ça ouvre des questions plus larges sur le pourquoi, mais je pense qu'on a réussi un peu à répondre à ça. Bon, pour le reste, c'est vraiment au lectorat, je pense. Je vais saisir l'occasion ici juste pour dire que j'ai énormément apprécié ton travail comme rédacteur de la revue, parce que vraiment, tu nous as poussés. Hein. Je pense que si on a pu aller, mais je suis très sérieuse, aller où on est allé, c'est parce que tu avais toujours des questions, tu avais toujours des « attends une minute, ça ne marche pas, va pas faire, mais attends, tu as dit ça là, mais après vous dites ça là, c'est quoi le lien ?» Et c'était vraiment très important, ta contribution à l'histoire que ce numéro nous a permis d'abandonner. Il faut dire « OK, on arrête là, on va lancer ça, il y a des fils qui restent en suspens, mais je pense que la recherche, c'est toujours ça. Mm-hmm. »
Ben super. Merci beaucoup, Monica, et merci pour ces très bons mots. Vous savez, une chose que j'ai appris, ça fait presque 5 ans que je suis à la direction de revue de la revue Francophonie d'Amérique, puis une chose que j'ai appris, c'est que chaque numéro a ses particularités, chaque numéro, finalement, suit son propre processus, suit sa propre démarche, puis on apprend à connaître les collègues, à travailler avec les collègues, à collaborer avec les collègues, à faire avancer nos idées. Puis, donc, ça fait un plaisir de collaborer avec vous et avec tous les collègues sur le numéro. Puis, ça fait plaisir surtout de voir le numéro qui est disponible sur Érudit, que les gens peuvent consulter. Donc, merci beaucoup pour cette discussion. Et comme je le disais, je pense qu'on va ouvrir à la salle s'il y a des gens ici présents qui ont des questions à vous poser. Est-ce que, Lucie, je te laisse gérer ça ou est-ce que je m'en occupe?
Oui, non, je pense que je vais te laisser gérer les questions. Okay. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main en utilisant la petite option réaction, Gracien a l'air à lever la main, soit lever la main visuellement si vous avez votre caméra ouverte, soit les poser dans la boîte de conversation. Donc, je te laisse animer ça, Rémi.
OK, c'est beau. Merci, Lucie. Gracien? Bonjour, Gracien.
Merci beaucoup.
On t'entend mal, Gracien? Ou je t'entends mal, en tout cas?
Ah bon? C'est mieux comme ça, non?
Rémi, est-ce que tu l'entends?
Non, le son est un peu faible, Gracien. Ouais.
Tu peux augmenter le volume?
Gracien, ton micro ne fonctionne pas. Peut-être enlever tes écouteurs puis utiliser le micro directement de l'ordinateur.
Je vais essayer ça. suis là maintenant.
Ça va? C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Mais si vous pouvez crier dans le micro, Gracien, je pense qu'on va tous vous entendre.
En fait, j'ai deux choses. Premièrement, je trouve que ça ouvre des portes de façon assez considérable sur une façon, encore une fois, une façon tout à fait différente de voir la francophonie, et j'ai beaucoup apprécié. Ma question porte sur ce que moi j'ai appelé il y a déjà très très longtemps le rapport à l'autre. Dans la migration, il y a bien sûr pour s'installer ou ne pas s'installer, pour continuer ou ne pas continuer, il y a un élément qui est en fait le rapport à l'autre. Est-ce que l'autre, qu'il soit métis, amérindien, ukrainien ou anglo la plupart du temps dans les migrations francophones, ce rapport-là, il est important dans le sens que, ce que je disais dernièrement, la reconnaissance de l'autre est aussi une bonne partie de notre propre reconnaissance. Donc, est-ce que dans le projet, la question du rapport à l'autre a été soulevée?
Merci. Oui, oui, absolument. Je dirais peut-être d'abord que pour nous, conceptuellement, on pense en termes de catégories sociales avec des frontières. Et ces frontières, la question, c'est qui garde ces frontières, qui sont les patrouilles de la frontière, qui est intéressé à ce que les frontières demeurent des frontières, qui est intéressé à les traverser dans une direction ou une autre, et qui est intéressé à les détruire. Et donc, on a essayé de regarder ces phénomènes un peu ensemble comme ça. Et je dirais que, bon, dans la mesure où des catégories ethnoculturelles avec lesquelles on travaille depuis extrêmement longtemps ont une réalité sociale, elles continuent à avoir une réalité sociale pour beaucoup de gens. Ceci dit, on voit différents cas de figure. On a des gens, comme j'ai dit, qui les refusent, qui cherchent à être, leur terme est vraiment citoyen du monde, et qui refusent le concept de l'autre et qui cherchent un univers de nous. Alors, il y a ce cas de figure qui existe parmi des gens qui ont grandi dans des réseaux, dans des institutions qui s'affichent comme étant des réseaux de la francophonie, et qui font ça par le biais de toutes sortes de pratiques langagières. On en a d'autres cas de figure où le rapport à l'indigénéité est important, mais complexe. Et on n'a pas vraiment beaucoup creusé ça, mais on voit par exemple notamment pour ce qui est du Manitoba l'importance de la catégorie métis. Et les tensions en ce qui concerne les catégories langagières, que ce soit langues autochtones, anglais ou français, ou métis, et les catégories ethno-culturelles, ethno-linguistiques, ethno-raciales. Et c'est là où, pour nous, vraiment, ce qui était important, c'était d'essayer d'identifier les points de tension et d'essayer de les comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces tensions existent et qui se trouve sur quel bord des débats, pourquoi et avec quelles conséquences, notamment pour, en l'occurrence, c'est le milieu associatif, mais c'est aussi l'accès aux ressources du gouvernement. Et puis, un de nos articles, on a plusieurs exemples. Le cas des franco-manitobains qui cherchent à s'intégrer au Québec, on a un article là-dessus où la tentative de retourner à un berceau imaginé et trouver qu'on n'est pas considéré comme étant des authentiques, des vrais, le problème de comment devenir québécois. Et là, je pense que une chose qui nous a frappé, c'est dans quelle mesure les jeunes franco-manitobains, pour la plupart de race blanche, très souvent avec une, disons, je dirais, une culture catholique, même si pas pratiquant, et l'expérience des gens immigrés recrutés par le Canada, par le Québec, pour venir s'installer au Québec, ont eu exactement les mêmes problèmes pour être considérés des Québécois légitimes. Ils ont rencontré les mêmes obstacles. Donc, des gens qui ont voulu faire partie d'un « nous » québécois et qui se sont fait construire contre leur gré constamment comme un autre. Un autre intéressant, un autre exotique, un autre le fun, mais un autre. Et donc, on s'est dit, si on peut mettre, si on a exactement les mêmes expériences pour les franco-manitobains et pour les immigrés, il y a quelque chose là qu'il faut creuser.
Au point de départ, un des éléments que j'avais au point de départ, c'est la réception des Québécois en Alberta dans les années 70. C'était des gens qui étaient considérés comme pas seulement autres, mais autres à ne pas fréquenter.
Voilà, et donc ça soulève, ce que ça nous ouvre, la porte que ça ouvre pour moi, c'est de dire, OK, pourquoi cette frontière-là? Qu'est-ce qu'on essaie de protéger avec cette frontière? Pourquoi on ne veut pas partager? Pourquoi est-ce qu'eux doivent devenir des autres? Et les frontières sont multiples et vont dans plusieurs sens. Les mêmes gens peuvent être considérés comme des autres à ne pas fréquenter ici ou ailleurs, exactement des gens qu'on veut devenir. Donc, c'est plus compliqué que la nature même des gens ou leur pratique culturelle ou leur accent. Ou l'anthropologue norvégien disait il y a très longtemps que ce n'est pas une question d'un checklist de caractéristiques des membres du groupe. La question est vraiment le processus de la frontière.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, réactions pour Monica? Oui, Étienne. Bonjour, Étienne. Oui,
bonjour, Rémi. Merci beaucoup. Merci à Monica pour cette excellente présentation. Numéro que je ne manquerai bien évidemment pas de lire. D'ailleurs, je l'ai sur mon site web. Là. J'ai résisté à l'idée de le lire pendant que tu parlais, donc c'est déjà une bonne chose. Mais je ne peux pas résister à l'idée de te poser une question, puis peut-être que ça va interpeller l'ensemble des gens du projet, mais surtout l'anthropologue. On parle de mobilité, on parle d'un concept qui est quand même assez large, qui touche, je dirais, une bonne partie de l'humanité, à la fois contemporaine, mais aussi historique. On ne peut pas penser l'humanité, je pense, en dehors de la mobilité. Alors, quand on choisit, je comprends pourquoi vous avez choisi le phénomène francophone, mais comment tu justifies, au-delà de me l'expliquer, comment tu justifies et en quoi le fait de s'attarder à cette population francophone, à la fois historique et contemporaine, ça nous constitue un bel outil de compréhension des mobilités. Qu'est-ce qui est particulier au fait francophone ou qu'est-ce qui, au contraire, est très commun et qui en fait finalement une étude de cas tout à fait valable?
Merci, Étienne. Comme toujours, tes questions sont très pertinentes. Je tiens aussi à signaler que tu as été parmi nos interlocuteurs et tu m'as beaucoup appris. Donc, une fois que tu auras lu, tu es obligé après de me faire une rétroaction. Mais donc, je prends cette question comme étant, comment est-ce que je justifie à mes collègues anthropologues, qu'est-ce que je fais avec cette francité canadienne? Alors, la réponse, c'est que ça nous permet de vraiment de comprendre en profondeur des phénomènes de le fonctionnement des systèmes d'impérialisme, de colonialisme, de rapport avec les populations autochtones, la question de la nation. C'est toutes des questions classico-classiques en anthropologie. Je ne suis vraiment pas la seule à m'intéresser à ces questions-là. Ce qui est peut-être un peu différent, par rapport à au moins une grande partie de mes collègues, c'est que je fais ça chez moi. Je suis dedans. Ça me demande peut-être une différente forme de réflexivité que d'autres. C'est une position que j'ai choisie les yeux ouverts il y a très longtemps et je ne regrette pas. Mais ça fait partie, et dans un sens, ça me permet aussi de participer à ces conversations très larges sur ces questions. L'autre aspect, et là je parlerai peut-être sur les conversations sur la question du colonialisme en Amérique du Nord, ce que les collègues américains souvent ne comprennent pas, c'est la complexité du, mettons, double colonialisme du Canada, que la francophonie canadienne permet de comprendre très bien, je pense. Je pense qu'il y a probablement beaucoup plus de travail à faire sur le colonialisme espagnol aux États-Unis, ça commence à être fait. Le colonialisme russe, c'est début. Et donc, élargir la place de l'Amérique du Nord dans le système monde plus complexe que juste l'Angleterre en Amérique du Nord. Et puis l'Espagne, sauf la Nouvelle-Orléans, mais la Nouvelle-Orléans, c'est toujours une exception. Donc, de voir ça dans un même cadre un peu plus complexe, un peu plus élargi. Et puis, pour ce qui est des collègues européens, de comprendre premièrement leur rôle, et là je parle notamment des Français, dans les différentes formes de colonialisme, pour s'éloigner un petit peu de nos petits cousins d'Amérique, c'est qu'il y a un truc plus important et plus profond à comprendre là. Mais aussi, il y a énormément de travail chez les collègues en Europe sur ce qui est convenu d'appeler les minorités linguistiques. Et les francophones du Canada sont souvent comptés comme des minorités linguistiques, comme les Occitans, les Bretons, les Corses, les Sorbes, et ainsi de suite. Et donc là, la contribution, c'est de dire « ouais, mais donc, alors, essayons d'examiner dans quelle mesure on a affaire, encore une fois, à des phénomènes connexes de colonialisme interne, comme disait Robert Laffont ou Michael Hector pour la Grande-Bretagne. Dans quelle mesure est-ce que les formes de colonialisme interne peuvent être comprises de la même manière que les colonialismes externe, mettons. Donc, ça permet de poser d'autres questions pertinentes à leur objet d'étude. Ça répond-tu? C'est bon.
Merci beaucoup.
On a le temps pour une dernière question, une dernière réaction, s'il y a.
Je ne vois rien dans la boîte de conversation. Ah oui, Olivier, la main levée. Vas-y, Olivier.
Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai eu le plaisir de travailler à la production de la revue à titre de responsable des publications du CRCCF. Donc, j'ai travaillé avec Rémi dès le départ. Et il y a un aspect de la revue qui nous a un peu surpris au départ, Rémi et moi, c'était l'inclusion de portraits personnels, de parcours. Au départ, on était surpris parce que ce n'est pas l'habitude dans une revue savante de les mettre, mais vous avez, Mme Heller, insisté en me disant que pour vous, c'était très important. On les a regroupés à la fin du numéro en fournissant aussi des hyperliens vers des capsules vidéo, vers une carte interactive. Alors peut-être, j'aimerais vous entendre sur pourquoi, quelle est l'importance de ces sources un peu différentes, qu'est-ce que ça apporte à votre numéro, et peut-être de façon plus large, est-ce que vous trouvez que les revues savantes en général devraient être plus ouvertes à des sources multimédias?
Merci beaucoup. Je m'excuse officiellement des problèmes techniques que j'ai posés et je vous remercie infiniment de votre patience et de votre dévouement. Mais la réponse, c'est oui. Alors justement, un des défis qu'on s'est donné avec ce projet, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut jouer avec la représentation des mobilités et des trajectoires. On a inventé, apparemment, on pensait peut-être, Étienne et d'autres géographes, ça c'est clair, on aurait dû avoir un géographe dans la gang. Ça, c'est un truc que je regrette énormément. Mais on a voulu rendre visibles les complexités, les non-linéarités des mobilités mentionnées par Rémi visuellement. Donc, on a fait ça avec des cartes interactives d'individus pour essayer de comprendre. Alors, dans la vie d'une personne en 1887 ou en 2017, qu'est-ce qui explique ces trajectoires? Qu'est-ce qui explique ces points d'ancrage? Qu'est-ce qui explique ces non-linéarités, que ce soit des allers-retours, que ce soit des points A à point B, à point C, à point D, à point B, à point A, à point X? Et on s'est dit qu'au lieu d'essayer uniquement de raconter ça dans l'abstrait, c'est plus facile à comprendre, surtout qu'on en parle très rarement, si on voit ça, visuellement, si on voit ça dans l'histoire de vie d'une personne. On avait commencé avec l'idée juste de faire la carte interactive où on peut suivre. On aurait aimé en faire plus, mais ça s'est donné super compliqué techniquement. Donc, il a fallu qu'on se limite à en bas d'une vingtaine à peu près. Mais ça devient très fragmenté, l'histoire. Et donc, on s'est dit, si on prenait ces histoires et on faisait des profils en même temps, ce serait possible pour le lecteur soit de suivre quelqu'un puis ensuite lire son histoire de vie, soit de lire l'histoire de vie et puis ensuite suivre la personne dans l'espace. Et donc, les deux sont des éléments, on s'est dit, importants pour la compréhension du vécu et des aspects vraiment concret des conditions historiques qui finalement expliquent ce que nous avons trouvé. Très généralement, je viens de terminer un mandat de 4 ans comme rédactrice en chef d'une autre revue, et je dirais que oui, je pense qu'on est plusieurs à croire que la fixation sur l'écrit, on a d'autres manières de construire et de communiquer les histoires qu'on veut raconter. On devrait vraiment exploiter ces outils. C'est en partie une question d'accessibilité. En partie juste une question de pouvoir comprendre les choses d'une autre manière. La visualité, c'est une manière. Le site web, l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un playlist de chansons. On a fait une sélection, j'en ai parlé au début, de types de chansons qui traitent de la mobilité comme exil, comme style de vie ou comme libération. Donc, on s'est dit, utilisons tous nos sens pour comprendre ces phénomènes. Je trouve que les maisons d'édition, dans mon expérience, ont beaucoup de travail à faire. Ils ne sont pas encore rendus là par rapport à ce qui est possible de faire. On est toujours dans une phase d'expérimentation. Mais je pense les lecteurs, le lectorat va nous dire s'il trouve ça juste ridicule, puis du glaçage sur un gâteau, pas besoin, sérieusement, ou bien s'il trouve ça intéressant. Mais quand je présente le site web dans des colloques, c'est bien reçu, les gens. Puis j'ai fait ça en Europe, j'ai fait ça au Brésil, j'ai fait ça aux États-Unis. Les gens ont tendance à réagir comme « oh, oh ». Papa, oh, ça c'est intéressant de réfléchir comme ça. Donc, je suis plutôt contente d'avoir essayé.
Merci beaucoup, Monica Heller. Merci de votre participation à cette table ronde. Merci, Rémi Légère, de l'avoir animé de main de maître. Merci à toute l'équipe des publications du CACCF, Olivier Lagueux et Raphaël Pelletier, qui ont mené à terme ce numéro de Francophonie d'Amérique. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vous en recommande fortement la lecture. Il est disponible via la plateforme Erudit, la revue étant désormais entièrement électronique, ce qui nous donne la possibilité d'avoir des hyperliens et d'exploiter plus à fond la technologie. Merci à tous et au plaisir de vous voir à la fin mars, tout le mois de mars en fait, parce que le CRCCF a 4 événements pour le mois de la francophonie. Au revoir tout le monde et à très bientôt.
Merci beaucoup, merci Lucie, merci Rémi, merci Agnès. Au revoir.
Au revoir tout le monde.